au Yavan, lorsque on était sous la domination des Grecs, Gazrou Xerot en Israël, ou Bitlou Datam, ils ont pris des décrets contre les Bnei Israël et ils ont voulu éradiquer complètement la Torah. Voilà. Donc, il commence sa halakha avec cette référence historique. Il est clair que le Rambam n'est pas en train de nous donner des repères historiques. Ça n'a pas sa place dans le Yad. C'est pas ce qu'il est en train de faire. Donc, il faudra qu'on comprenne que le fait que ça se déroule durant le deuxième durant le deuxième Beth Amikdash et sous la domination des Grecs, ça fait partie de l'événement. Ça fait partie, que ça se passe à l'époque du deuxième Beth Amikdash, c'est pas que par hasard ça s'est passé là, ou même pas par hasard, peu importe, mais ça fait partie de l'événement lui-même. Pour comprendre ce qui se joue, il faudra tenir compte, intégrer le fait que ça se passe durant le deuxième Beth Amikdash. Rambam continue et dit, donc il raconte le Nes en fait, et puis il dit, Mipnezei kinu hachamim shebeoto ador, pour cette raison, pour l'histoire de Nes, les hachamim de cette génération-là, ils ont instauré sheyu shmonat hayamim ha'elu, que ces 8 jours-là soient yemei simcha vehalel, des jours de joie et des jours de louange d'Hachem, halel. On récite le halel, c'est-à-dire le Hallel, c'est une certaine sélection des Tehillim. On a des extraits de quelques-uns, enfin, des Tehillim. Et ensuite, il dit, Umadlikin ba'en hanerot. Et ces jours-là, on allume des nerot, ba'erev, le soir, alpitre abatim, aux portes des maisons. Et seulement après, il dit, va'adlakat anerot bahen, et le fait d'allumer des lumières pendant ces 8 jours de Hanouka, mitzvah midibrei sofrim. C'est une mitzvah, disons, on va dire, des rabbanan. Donc, avant de dire que c'est une mitzvah, il dit d'abord que c'est les jours qui ont été consacrés à Simcha et à Halel. Et à la Katanerot. Seulement après, on dit que c'est une mitzvah. D'ordinaire, on s'attendrait à ce qu'ils disent il y a une mitzvah, puis qu'on explique que la mitzvah, on parle de quand est-ce que la mitzvah, comment on fait la mitzvah, etc. Et pour terminer, à la fin de cette introduction, là, de la halakhot de Chanukah, il dit, Midou Melech Mina Kohanim, que finalement, donc, ils ont installé un roi issu des Kohanim, Vechazra Malchut l'Israël, Yeter al-Mataim Shana, Adachurban Hasheni. Et il y a eu le retour d'une royauté juive sur la terre d'Israël, donc, pour plus de 200 ans. Donc là aussi, pour Rambam, cet aspect, on peut dire plus politique, fait partie du nazi, fait partie de l'événement. Ce n'est pas une conséquence, mais ça fait partie de l'événement. Alors, pour commencer, on va rappeler un petit peu le déroulé en les questions. Le Maharal explique les quatre exils. Tout le monde sait qu'il y a donc il y a eu quatre exils. On compte quatre, même si en fait, par exemple, l'exil d'Égypte n'est pas compté dans les quatre exils en question. Ces quatre exils, c'est 3 plus 1, si vous voulez. L'exil de Babel, il est consécutif à la victoire militaire de Nabuchodonosor, Nabucodonosor sur les Bnei Israël. Il a détruit le Beth Amikdash et il a exilé les Bnei Israël. Il les a exilés dans un pays qui s'appelle la Babylonie. Le deuxième exil, c'est l'exil perse. Les Perses ne sont pas venus nous faire la guerre, ils ne nous ont pas emmenés en guerre, en captivité. Les Perses ont battu les Babyloniens. Et donc nous, on a simplement changé de maître. On n'a pas bougé, on était toujours dans le même exil. C'était les mêmes terres, qui était la terre de Babylonie, mais qui est devenue la terre perse, parce que les Perses ont gagné la guerre. Et puis les Perses ont été battus par les Grecs, Alexandre. Et donc, là aussi, on n'a toujours pas changé. On n'a pas vraiment changé d'endroit, mais on a eu des autres. Enfin, c'est pas tout à... Il va y avoir un bémol là-dessus, mais on a eu des autres maîtres. Par contre, le quatrième exil, qui est l'exil d'Édom, lui, il est de nouveau consécutif à une guerre perdue par les Bnei Israël, qui ont perdu la guerre contre les Romains. Et les Romains nous ont exilés, nous sommes encore toujours dans ce quatrième exil, qui est l'exil qu'on appelle l'exil de Édom, l'exil de Ésav. Alors, le bémol dont j'ai parlé, c'est que pendant l'exil perse, ça correspond à Pourim. Pendant l'exil perse, il y a Pourim. Et à la suite de Pourim, un peu avant et un peu après, il y a la décision de Cyrus, puis ensuite de Darius, de permettre aux Bnei Israël de retourner en Eretz Israël et de reconstruire le Beth Amikdash. C'est-à-dire, c'est la construction du deuxième Beth Amikdash. Donc, ils ont construit le deuxième Beth Amikdash. Et comme le premier, il va durer en tout un peu plus de 400 ans. Les deux sont 410, 420 ans. Et au milieu, à peu près de la durée du deuxième Beth Amikdash, se passe l'événement Hanouka. À ce moment-là, on était. C'est vrai que il y avait la Perse avait été conquise par Alexandre, et puis ensuite partagé entre ses généraux et tout. Mais l'événement Hanouka, il a bien lieu sous domination grecque, mais pas sur le territoire babylonien, babylono-perse, grec. C'est bien dominé par les Grecs, mais ce territoire-là, Eretz Israël, c'est le territoire des Bnei Israël. Ça veut dire que Hanouka, ça va se passer sur la terre d'Israël, et avec le deuxième Beth Amikdash. Mais cette situation-là s'appelle toujours l'exil grec. Ça veut dire que le mot exil n'est probablement pas du tout la bonne traduction de galout, puisqu'on n'a pas on est sur nos terres, si on peut parler comme ça, et avec le Beth-Amikdash. Donc c'est difficile de dire, d'utiliser le mot exil. Enfin, comme les autres s'appellent des exils, alors celui-là on l'appelle aussi l'exil, mais c'est un galout, mais pas un exil. Un instant, s'il vous plaît. Oui. Attendez, je vais essayer d'ouvrir depuis là. On a ce troisième exil, donc, et c'est pendant cet exil-là que l'histoire de Hanouka va se passer. Dans ce quatrième exil, en fait, il a une particularité, c'est que chacun des trois exils nous a posé un certain problème. Ce n'est pas le même problème avec les Babyloniens, avec les Perses ou avec les Grecs. L'exil de Ésav, l'exil de Édom, c'est un exil durant lequel tous les problèmes qu'on avait plus ou moins réussi à gérer séparément, ils se retrouvent tous présents. Donc les problèmes dans l'exil dans lequel nous sommes, c'est le fait que en gros, du fait que tous les problèmes se retrouvent dans cet exil-là. Et ça, c'est comme l'exil des sables, c'est comme si ça rassemblait tous les problèmes, et du fait qu'ils viennent tous ensemble, ça crée des nouveaux problèmes, bien sûr. Bien, ça c'est une première chose. On a dit que ils ont fixé ces 8 jours de Hallel veHodaah, le Simcha, pardon, Simcha veHallel. Donc il y a aussi un côté de Hodaah, de remerciement, de reconnaissance. Et le fait que ça s'est passé au temps du deuxième Beth Amikdash. On va essayer de voir un petit peu ce que ça veut dire. En vérité, c'est marqué, donc, aussi, Shekavum ve'asaum Yom Tov Behalel ve'Hodaah. Ils ont fixé ces jours-là comme étant des jours de Yom Tov et dans lesquels on va dire le Hallel et on va Hoda, c'est Al Hanissim. C'est le remerciement, Al Hanissim, voilà pourquoi on remercie Hachem. Hazal, on dit dans Maseret, à Pessah, non, pardon, c'est dans Maseret Choulin, Hazal disent Akofer ba avoda zara que modé bechol la Torah kula. Que celui qui nie la avoda zara, l'idolâtrie, c'est comme s'il reconnaissait toute la Torah. Alors, ça vient de ce que celui qui pratique la avodah zarah, il a fait une faute qui est, comme on dit, shkula keneged kol haTorah kula. C'est-à-dire, c'est une faute qui est équivalente à transgresser toute la Torah. Alors, en vérité, puisque c'est comme ça, on aurait dû dire les choses à l'envers. On aurait dû dire que celui qui est modé dans la avodah zarah, il reconnaît Avodah Zara, c'est comme si il niait toute la Torah. C'est ça qu'il faut dire. Parce que celui qui reconnaît l'idolâtrie, évidemment, il nie la Torah. Mais le fait de le dire dans l'autre sens, il est possible que quelqu'un soit kofer b'avodah zara. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que quelqu'un refuse, nie l'idolâtrie, mais malgré tout, il n'en est pas encore à reconnaître la Torah, par exemple. Le Paradis d'Israël, Rabbi Israël Koutner, il explique que ici, on n'est pas en train de parler de la réalité. Bien entendu, la réalité, c'est que on peut trouver quelqu'un qui nie l'idolâtrie, mais qui n'est pas encore modé la Torah Kula. Ici, on parle plutôt de quelque chose qui s'appelle, qui c'est une espèce de madriga, c'est une espèce de niveau. C'est-à-dire, ça touche comme niveau le fait que Chazal dise que Israël veut raita chadhu. On dit que Israël, le peuple d'Israël, et la Torah, c'est d'une certaine manière une seule et même chose. Vous voulez, c'est comme si on disait, c'est une espèce de portrait chinois. Si c'était un peuple, ce serait le peuple d'Israël. Si c'était un écrit saint, ce serait la Torah. Et si c'était une divinité, ce serait Hachem. Parce que, là, il n'a pas cité ici le troisième, dit que c'est en fait un trio dont on dit que c'est une seule et même chose. C'est marqué Kutcha Brichu, Akadosh Baruchu, Oraita, V'Israël, Chadou. Pas exactement marqué comme ça dans le Zohar, mais c'est comme ça qu'on le cite toujours. En vérité, les Chazal disent, en parlant du Korban Pessah, disent que quand les Bnei Israël ont décidé qu'ils allaient faire le Korban Pessah, alors la Gemara dit, enfin Rashi le ramène, en fait, Maale alav hakatuv keilu asu. Le pasouk fait comme si d'avoir décidé de le faire, c'est comme s'ils l'avaient déjà fait. C'est marqué Vayelchu vayaasu. Ils sont allés et ils ont fait, et ils n'avaient pas encore fait. Alors, il est clair que cette idée-là, que d'être mekabel, c'est comme si on avait fait, d'avoir accepté de le faire. Ça, c'est quelque chose qui est propre au clan d'Israël. Ça n'a pas été dit pour les Bnei Noach, par exemple. Ça a été dit que pour le clan d'Israël. Pourquoi? Ça n'est possible qu'avec le clan d'Israël, parce que le clan d'Israël, justement, il est chadou avec la Torah. C'est la même chose. Donc, quand le clan d'Israël décide quelque chose, c'est comme si c'était écrit dans la Torah. Donc, c'est comme si c'est fait, quoi. Cette metziout, cette réalité de Israël Raïta Hadou, c'est en fait pourquoi c'est devenu comme ça? C'est parce que les Bnei Israël, ils ont accepté la Torah. Et la Torah est devenue en quelque sorte leur vie. On vit grâce à la Torah. C'est pour ça que il suffit d'être kofer b'avodah zara, il suffit de nier la valeur de l'idolâtrie. Donc, automatiquement, on est modé sur la Torah parce que tout le temps tant qu'on n'a pas refusé le joug de la Torah, alors on est dedans, quoi. Si on n'a pas Et le refuser, c'est adhérer à l'idolâtrie. Donc, si déjà tu refuses l'idolâtrie, bon, ben alors tu as le joug qui est là tout le temps. On a une fois accepté la Torah, donc la Torah, elle est toujours là. On n'a pas besoin d'accepter formellement la Torah. On est astreint à la Torah parce que on fait un avec la Torah. Il y a bien un moyen de s'en libérer, si on veut parler comme ça, c'est d'accepter l'idolâtrie. Et si c'est pas ça, si on n'accepte pas l'idolâtrie, alors on est automatiquement du bon côté, si on peut parler comme ça. Alors, cette idée de dire le Hallel, Hallel, c'est une forme de Shira, une forme de chant. Chant, c'est pas obligatoirement avec de la musique. Yesh. Un chant, c'est comme on dit en poésie, quoi. C'est un chant. Et Chazal disent dans la Gemara, dans Psachim, on dit une expression comme Efchar Israël, Shachatu et Pisrayem, ou bien Venatlu Lulvehen. Est-ce qu'on peut imaginer que les Bnei Israël ont fait la shrita du Korban Pessah? Ou bien est-ce qu'on peut imaginer que les Bnei Israël ont pris ils ont secoué leur loulav et qu'ils n'ont pas dit Shira? On voit ici que Chazal considère qu'on ne peut même pas penser une chose pareille. Ça ne peut pas se faire sans Shira. Ces mitzvot-là, on ne peut pas les faire sans qu'il y ait en même temps le Hallel, quoi. Pas. Il y a un passouk dans le Nabi Yeshaya où Hachem dit Amzu Yatsartili, ce peuple, je l'ai formé pour moi, Tehilati s'appelle. Ils vont raconter mes louanges. Donc, ça veut dire que la formation des Bnei Israël, elle était telle que il ne peut pas faire autrement, si on peut parler comme ça, que de dire les louanges, de chanter les louanges d'Hachem. C'est-à-dire, automatiquement, chez les Bnei Israël, ça doit chanter, quoi. Oh, ils disent qu'il faut faire le Hallel, mais qu'on a un équivalent du Hallel. La lecture de la Megillah, c'est une forme de Hallel. C'est une forme de louange d'Hachem, paradoxale, puisque le nom d'Hachem n'est même pas mentionné.
Mais c'est considéré comme une forme de
Et
Hallel.
c'est, oui.
Le fait de.
La Gemara, elle dit de lire la Megillah. La Gemara, elle pose la question. Oui. Pourquoi on ne dit pas Shira, pourquoi on ne dit pas Hallel à Pourim? Alors, une des réponses, c'est oui, on le dit. On le dit sous forme de Megillah. Il y a même un Meiri qui dit que si quelqu'un est à un endroit où il ne peut pas lire la Megillah, il n'a pas de Megillah à Pourim. Le Meiri dit il doit dire Hallel. Bon, il est tout seul à dire ça, mais c'est intéressant. Il le dit, le Meiri.
On n'a pas de texte.
Oui, il est un endroit. Il y a un endroit, le Hallel, il connaît, il peut le dire.
Non, pardonne-moi, mais on n'a pas de texte à lire. Donc ça nous permet.
Ah non, on dit le Hallel, il n'y a pas de
Oui,
texte.
voilà, c'est ça. C'est-à-dire que par
Ah, il n'y a
rapport.
pas de Megillah. Non, mais c'est la Megillah qui joue le rôle du Hallel. Mais c'est pas que le.
D'accord.
Quand on a le vrai Hallel, on n'a pas besoin d'un Megillah. Donc, en fait, ça veut dire que les Bnei Israël sont naturellement pleins de ces louanges qu'ils doivent dire. C'est fait partie de leur ADN, quoi, finalement. Quelque part, cette ouverture qui donne lieu à l'expression des louanges d'Hachem par le biais du Hallel, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans la personnalité du clan d'Israël, en fait. C'est une façon de dire la louange, comme on dit. Je dis la louange d'Hachem. Ça correspond à, au fait, comme on dit, à Shamaïm et Saplé, que les cieux racontent du seul fait qu'ils sont ce qu'ils sont, ils racontent la louange d'Hachem. Le Hallel, c'est une façon de d'ouvrir l'âme pour qu'elle s'exprime, en fait, que elle s'exprime de cette manière-là, elle s'exprime par la louange d'Hachem. Alors maintenant, on va venir à la deuxième partie de ce qu'a dit Rambam. C'est que ça s'est passé, durant le Bayit Sheni, le deuxième temple. Alors, je veux juste rappeler, je pense que c'est connu, mais bon, on a tout dit en fait. Au moment de l'inauguration du Mishkan, Hanouka, c'est une inauguration, n'est-ce pas? Hanouka, c'est Chanukhinour, c'est une inauguration, c'est une deuxième inauguration du deuxième Beth Amikdash. Il y en a bien eu une au moment où on a construit le Beth Amikdash, et comme il avait été complètement profané à l'époque avant la révolte de Hanouka, il a fallu refaire l'inauguration. Hanouka, c'est sa deuxième inauguration du même Beth Amikdash, mais nettoyé, quoi, quelque part. Alors, à l'inauguration du premier Beth Amikdash, ce qui était Mishkan, Mishkan, c'est le premier temple, si vous voulez, c'était un temple en kit, qu'on démontait, qu'on remontait à chaque fois, durant toutes les pérégrinations du désert. À ce moment-là, tous les chefs de tribu ont apporté un cadeau. À l'inauguration, ben, on apporte des cadeaux. Ils ont apporté des cadeaux. Et donc chaque chef de tribu a apporté ses cadeaux. Le premier à apporter ses cadeaux, c'était le chef de la tribu royale, celui qui marche en tête, etc. C'est Nachshon ben Aminadab, qui est le Nassi, qui est le prince de la tribu du Yehuda. Et alors, Nachshon a amené, comme cadeau, il a amené, si vous voulez, un échantillon de tout ce qu'on pourra amener dans l'histoire du Beth Amikdash. Il a apporté tous les animaux, il a apporté un taureau, il a apporté un cabri, un agneau, un bélier, etc. Il a apporté toutes sortes de vins pour les libations, de l'eau pour les libations d'eau à Sukkot. Il a apporté des menachot, c'est-à-dire des crêpes, alors des tunisiennes pleines d'huile, et d'autres beaucoup moins d'huile, etc. Donc, il a apporté de tout ce qu'on peut. Il a aussi apporté du bois, parce qu'on peut aussi donner du bois comme le bois pour le foyer. Sur le Misbéa, d'accord, on peut donner du bois, donc il a apporté du bois, il a apporté tout ce qu'on peut amener. Et certains livres, il a aussi apporté de l'or, de l'argent pour les kélim, etc., pour les ustensiles. Super, magnifique. Mais il y a un problème avec ça, c'est que toi tu as amené ça, d'une certaine manière, ça veut presque dire que tout ce qu'on va amener dans l'histoire du Beth Amikdash, donc des Beth Amikdash, ben c'est jamais que la continuation de ce que toi tu as fait. Il a amené le début, et puis après, ben on est seulement. Donc quelque part, il occupe toute la place, quoi. Et alors, d'abord, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'amène le deuxième? On a ainsi la tribu d'Issachar. Issachar, c'est la tribu de la Torah, l'étude de la Torah. Comment il fait? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'il peut amener? Il peut pas, il y a rien qu'il puisse amener que l'autre n'ait pas déjà amené. Qu'est-ce qu'il fait? Il va doubler. J'imaginais la puissance, la 12e tribu. Ah, il faut tuer tous les animaux du monde, quoi. Et donc, Netanel, qui est le nazi de la tribu du Sahara, il a une idée de génie, quoi. Il a apporté exactement la même chose. Pas le double, la même chose. Seulement, si vous voulez, il l'a amené, mais avec un sens différent. C'est-à-dire, tout ce qu'il a amené, il l'a amené, tout ce qu'il a amené était par référence à l'étude de la Torah. Du coup, ça repoussait en quelque sorte ce que Nachshon Ben Aminadab avait amené. Tout ce qu'il avait amené avait un parfum de royauté, savoir avec la royauté. Et donc chaque tribu a fait la même chose, ils ont tous apporté la même chose, mais chacun l'a apporté avec le parfum, avec l'intention, la kavana, le sens, de le rattacher à ce qui était la caractéristique de la tribu. Donc ça veut dire que finalement, tous les korbanot qu'on va amener, on amènera effectivement les korbanot qu'il faudra amener, mais selon qu'on appartiendra à la tribu X ou à la tribu Y, on amènera bien le même agneau pour les mêmes fautes, etc. Mais on l'amènera d'une façon complètement différente parce que selon qu'on est de la tribu de Zvouloun ou de la tribu de Gad, on va amener ce même agneau avec une autre intention. D'accord? Ça veut dire, on va penser qu'il a une connotation, par exemple, d'Issachar, ça veut dire, ça a à voir avec l'étude de la Torah, comme si, au fond, les fautes qu'on a faites, si on est de la tribu d'Issachar, elles ont tout un parfum de, bon, il y a un problème avec mon étude de la Torah. Et les autres qui auront une autre caractéristique. Donc, la même faute, elle a un autre parfum, elle touche quelque chose d'autre en vérité, mais elle me touche parce qu'elle me touche dans mon appartenance à la tribu. Donc, c'est un truc assez génial. Bon, c'est parfait. Seulement, boum, qu'est-ce qui se passe? Après tout ça, Aaron, il dit, mais moi, je n'ai rien apporté pour ma tribu. Je n'ai rien apporté pour la tribu de Lévi ou pour la tribu des Kohanim, peu importe. Je n'ai rien apporté. Et alors, Akadosh Baruch Hu va consoler Aaron. Il va lui dire, en fait, ce que toi tu fais, c'est plus que ce qu'ils ont fait. Alors, l'idée étant que, qu'est-ce qu'il fait lui? Ce que fait le Kohen Gadol en particulier, c'est l'allumage de la menorah. L'allumage de la menorah, ça se passe comment? Tous les soirs, on allume un candélabre avec une menorah à 7 branches. On remplit les godets, enfin, on remplit les nérotes, on les remplit d'huile d'olive, on met des mèches. On met dans les 7 branches la même quantité de combustible, la même quantité d'huile, et ça va brûler pendant toute la nuit. Mais il y en a un, qu'on appelle Ner Ma'aravi, celui qui était au côté à l'ouest, vu la position de la menorah. Le Ner Ma'aravi, qui est le nerf central, lui, il brûle, bon, pendant le premier Beth Amikdash en tout cas, il brûle jusqu'au lendemain soir. Il a pourtant la même quantité de combustible. Donc ça fait partie des nissim. Il y avait dans le premier Beth Amikdash 10 nissim quotidiens. Et donc, c'en est un, ça, on dit que c'est une Edout de la présence d'Hachem dans le clan Israël. Témoignage de la présence d'Hachem dans le clan Israël. Et ça, c'est le. Alors, la menorah, c'est tout le problème de la chokhmah, etc. Donc, c'est quelque chose de gigantesque, très important. Et Hachem lui dit, ça, c'est plus que les korbanot, quoi. Alors, en quoi c'est plus? Alors, une des explications qu'on donne, c'est de dire la chose suivante. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? À Hanouka, on est sous l'époque de Hanouka, ça se passe sous la domination grecque. Sous la domination grecque, il y a plein de choses que les Grecs n'ont pas laissé pratiquer, et ils étaient contre toute notre notion de pureté. Ils ont peut-être une notion à eux de pureté, paraît-il, mais en tout cas, la nôtre, ils la considèrent comme complètement fausse. Et par conséquent, ils ont impurifié tout ce qu'ils pouvaient dans le Beth-Amikdash. En particulier, ils ont impurifié l'huile. On a besoin de l'huile en particulier pour la menorah. Et l'huile qu'on utilise, c'est une huile qu'on produisait en vérifiant, en veillant à ce que cette huile ne devienne pas impure. Il n'y a pas de contact avec quelque chose d'impur. Et évidemment, on a produit de l'huile en avance et on a scellé les réserves d'huile avec le sceau du Kohen Gadol pour garantir que c'était pur et qu'on pouvait l'utiliser. Mais les Grecs ont impurifié systématiquement toutes les huiles. Quand je dis toutes, c'est pas tout à fait vrai puisqu'on a trouvé une fiole. Alors certains disent que bon, c'était une des fioles pour ça, d'autres disent que c'était de l'huile d'olive qui était nécessaire pour le corban. Il y a un corban particulier pour le Kohen Gadol qu'il avait mis de côté, et ça il ne l'avait pas trouvé, ou les Grecs n'ont pas trouvé ça, je sais pas. Ben, peu importe, en tout cas, on a trouvé une fiole qui permettait d'allumer les 7 branches pour un jour. Ouais, c'était comment les doses étaient des doses journalières. Seulement, pour fabriquer de l'huile pure, il fallait que les gens soient dans un état de pureté. Or, ils avaient fait la guerre. Voilà. Et quand ils ont fait la guerre, ils ont touché des cadavres, etc. Donc, ils ont besoin d'une procédure longue de purification. La paradouma, etc. Ça prend 8 jours. Ça prend 7 jours et un jour ensuite pour fabriquer l'huile dans l'état de pureté. Donc, pour avoir de l'huile pure, il faut 8 jours. Donc, eux, ils en ont pour un jour et pas plus. Alors, en réalité, c'est pas si terrible parce que quand tout est impur, quand là, Israël est majoritairement impur, on a le droit de faire la avoda, dans une grande partie de la avoda, dans un état d'impureté. Donc, on aurait pu allumer la menorah avec de l'huile impure, vu qu'on n'en avait pas d'autre. Mais évidemment, si on avait fait ça, alors toute la lutte, c'est un peu compliqué. On a lutté pour ça, et maintenant on allume quand même dans l'impureté. Alors il y a eu un Ness. Alors comment est-ce que le Ness s'est fait? C'est-à-dire est-ce qu'ils ont dit, ils se sont dit, on va mettre seulement un huitième de dans chaque.
Septième.
Hmm?
Un septième. Il devient un huitième.
Oui, mais ça va durer 8 jours.
Pardonnez-moi.
Ils ont un jour et on va répartir sur 8 jours l'huile qu'on avait. Et ça, malgré tout, même si on avait mis seulement un huitième de la quantité habituelle, ça aurait duré quand même suffisamment. Ou bien est-ce que ça a brûlé de toute manière? Bon, peu importe. En tout cas, il y a eu un miracle et ça a brûlé pendant 8 jours. Et du coup, ils ont décidé, comme on a dit, les Rahamim de cette génération ont décidé que pendant ces 8 jours-là, Une des choses qu'on allait faire, en plus du Hallel, de l'Anissim et de la Simcha, on va allumer des Nérotes, comme on a vu, devant les maisons, tous les soirs. Qu'est-ce qu'on va allumer? On va allumer une lumière tous les soirs. Et, puisque ce NES-là est la mitzvah qu'on en a tirée, le NES, c'est impressionnant, mais l'impact d'un NES, en vérité, c'est très faible. Rambam dit que les Bnei Israël, ils n'ont pas du tout eu confiance en Moshe Rabbeinu à cause des Nissim qu'il a fait. C'est pas pour ça qu'ils lui ont fait confiance. Alors, comment est-ce qu'on fait? Il faut prendre cet enthousiasme, cette flamme-là qui ce moment-là, et il faut en faire quelque chose. Lorsqu'ils en ont fait, ils ont fait la fête de Hanouka. On a décidé de, on va allumer. Et du coup, cet allumage-là, il est d'une certaine manière lié à l'allumage de la menorah, puisque c'est à cause du NES qui a eu lieu dans la menorah qu'on allume Hanouka. Et donc, quelque part, c'est comme si, en fait, ce que disait Hachem à Aaron, lui dit, les korbanot qu'ils ont amenés, leur impact va durer jusqu'à la destruction du Bétamigdash. Parce qu'à ce moment-là, on n'amène plus de korbanot. Ils disent, OK, mais dans ce cas-là, la menorah non plus, on n'allumera plus. D'accord, on n'allumera plus la menorah, mais on va continuer d'allumer la menorah d'une certaine manière avec la lumière qu'on allume devant toutes les maisons. D'accord, donc c'est ce qu'il lui a dit. Toi, finalement, ta mitzvah, elle va continuer jusqu'à la fin des temps, puisque ça deviendra une mitzvah d'allumer Nerot Hanouka. Et donc, on va continuer, même s'il n'y a plus de Betamigdash, on va continuer d'allumer non pas la menorah, mais quelque chose qui a à voir avec la menorah. Donc, c'est la prolongation de ta. C'est comme si la mitzvah qui a été donnée à Aaron, c'était d'allumer en tant que Kohen Gadol, et puis que ça soit prolongé. Dans toute l'histoire juive, on va allumer des Nérodes de Hanouka.
Les tfilot, c'est la substitution de ce type de corbanote.
Alors, l'idée de dire que après le quand on n'a plus pu apporter des corbanotes, alors on a dit on a appliqué un principe qui s'appelle on va remplacer les taureaux par le travail de nos lèvres, c'est-à-dire on va remplacer les korbanot par l'étude ou la récitation, l'étude des versets qui parlent des korbanot qu'on aurait dû amener. C'est-à-dire quelqu'un qui doit apporter un korban khatat, il ne peut pas apporter son korban khatat, mais il peut lire le texte de la Torah qui dit que voilà, quand tu as fait telle et telle faute, tu amènes, il y a des conditions, tu vas amener un korban, tu lis ce texte, ça s'appelle Neshalma Parim Sfateinu. On va payer en quelque sorte les taureaux, on va les remplacer par Sfateinu, par le travail de nos lèvres. Donc il y a une espèce d'équivalence qui est posé, c'est-à-dire que quand on ne peut pas faire les choses, eh bien, si on étudie le sujet, on étudie la Torah, comme la Torah, on avait vu déjà, il y a la Torah et le Klal Israël, c'est un peu la même chose. Donc, quand tu étudies la Torah, c'est comme si on l'avait fait, quelque part. Comme si on a fait les choses. On ne peut pas faire autrement. Mais ça n'a quand même pas la même valeur qu'une mitzvah que tout le monde fait. D'ailleurs, tout le clan Israël qui fait la mitzvah de Hanouka. Alors, peut-être deux mots quand même sur la mitzvah de Hanouka. Ce qui se passe, si vous voulez. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est la mitzvah? La mitzvah de Hanouka, donc, la Hadlakat Nerot de Hanouka, c'est d'allumer une bougie ou une lumière par maison. Pas par personne, mais par maison. Dans chaque maison, chaque appartement, si vous voulez, chaque famille, en gros, allume un nerf. Un nerf le premier soir, un nerf le deuxième soir, un nerf le huitième soir. Un par maison. Et où est-ce qu'on allume? On allume devant la maison. Donc, ce n'est pas du tout pour les gens de la maison. Ça s'appelle pyrsoumanès. On publie le miracle. Parce que quand tu rentres chez toi, bon alors tu as vu le. Quand tu as allumé, après tu rentres chez toi, tu fermes la porte, tu ne vois plus la bougie de Hanouka, tu ne la vois pas. C'était comme ça qu'on allume en Eretz Israël, qu'on a allumé en Israël. Après, on n'avait pas le droit d'allumer en Galout, après on ne pouvait pas, etc. Donc on a pris des décisions qu'on peut aussi allumer à l'intérieur de la maison. Alors du coup, si on allume à l'intérieur de la maison, alors c'est pour qui? Alors c'est pour les gens de la maison. Donc il va y avoir un problème, par exemple, si le maître de maison qui allume, il travaille tard, il rentre tard le soir, quand il allume, il n'y a pas un chat, tout le monde dort déjà. Donc, ça fait un problème, quoi. Est-ce qu'il faut réveiller quelqu'un pour que quelqu'un vienne apprécie? Bon, c'est déjà une question, quoi. Comment on fait? Alors, on allumait dehors et on allumait. Il fallait mettre une certaine quantité pour que ça dure à peu près une demi-heure. Et on allume pour que le temps pour allumer, c'est tant qu'il y a des gens dans la rue. La Gemara, elle raconte que c'est quoi? C'est quand commençaient les gens dans la rue. Alors, il y avait, en son temps, il y avait des gens qui vendaient du petit bois. Les gens, ils avaient besoin de se chauffer ou de s'éclairer. Et donc, le soir, il y avait des gens qui, les derniers dans la rue, c'était les vendeurs de petits bois pour allumer le feu dans la maison. Quand il n'y avait plus personne, quand ces gens qui vendaient le petit bois n'étaient plus dans la rue, ben ça, c'est trop tard, on ne peut plus allumer. On dit par exemple, le Boïs Karov, il avait un cinéma en face de chez soi, donc il allumait tant que les gens étaient encore au cinéma, et ils voulaient que ça brûle. Les gens qui sortent du cinéma, ils voient qu'on a allumé. Alors, le problème, c'est que nous sommes parmi les goïms, alors, pour qui on allume? Pour les goïms. On n'allume pas pour les goïms, enfin. On allume le Parnès. Alors, les goïms, ils peuvent voir le cas échéant, c'est pas un interdit. Mais ces lumières-là, c'est pas du tout des lumières pour éclairer. C'est-à-dire, elles sont comme la menorah. La menorah, c'était pas une lumière. La menorah, elle servait pas à éclairer. Hachem, il n'a pas besoin qu'on éclaire le Beth-Amikdash. D'accord? Mais c'est une lumière qui est là pour rayonner, pour envoyer un message, mais pas du tout pour qu'on y voit clair. Et donc, on en a même fait un issour, quasiment. On dit on allume, mais pas du tout pour qu'on. C'est pas fonctionnel du tout. C'est pas pour qu'on y voit clair. Et pour être sûr que on va pas utiliser ces bougies comme éclairage, alors. On a dit qu'il fallait allumer une autre lumière, de telle sorte que si jamais on entre, c'est sombre, et il y a la lumière des bougies de Hanouka, alors quoi, je vais m'éclairer avec les bougies. Non, en réalité, j'ai une bougie, ou l'électricité, enfin, de toute manière, j'ai une source d'éclairage qui fait que, bon, je dis que je m'éclaire pas avec cette source-là, et pas avec les bougies. Alors, par exemple, ces bougies-là, les lumières de Hanouka, c'est pas du tout la même chose que les bougies de Shabbat. Au contraire, les bougies de Shabbat, elles sont faites pour nous éclairer, elles sont faites pour qu'on se cogne pas les uns dans les autres. Nous, on n'en connaît rien parce que nous, on a l'électricité. Mais avant, quand tu fonctionnes qu'avec des bougies, eh ben, si les bougies s'éteignent ou ça, c'est un peu embêtant parce qu'on va se rentrer dedans. Et quand il fait vraiment nuit noire, on n'y voit pas beaucoup, hein. Alors, Shabbat, on allume des lumières Pour y voir clair, pour qu'au moins on voit ce qu'on mange, par exemple. Donc c'est purement les lumières de Shabbat, elles sont purement fonctionnelles. Les lumières de Hanouka, elles sont purement non fonctionnelles. Elles ne viennent pas nous éclairer. Elles viennent publier quelque chose. Alors cette mitzvah de Hanouka, elle est tout à fait étrange parce qu'il y a dans la Torah une mitzvah, en quelque sorte, qui est construite sur le passouk Zé Keli Ve'Anveu, un passouk de la Shirat Hayam. Il est mon Dieu et je vais l'embellir, en quelque sorte. Il y a une mitzvah d'embellir les mitzvot. C'est-à-dire une mitzvah d'acheter un bel étrog, un beau talit, des beaux tefillin, des beaux chandeliers pour Shabbat, tout ça. Ça fait partie de ce qu'on appelle Hidur Mitzvah, embellir la mitzvah. C'est une mitzvah, c'est pas du tout obligatoire. Mais il y a une place pour embellir la mitzvah, c'est-à-dire de faire, on fait la mitzvah et on la fait de telle sorte que ce soit un peu plus beau. Alors, ou bien on met plus d'huile pour que ça brûle plus, par exemple. Au lieu d'allumer une lumière, on en allume deux. Voilà, il faut un peu être créatif, inventif, etc., pour enjoliver. Bon, la plupart des gens, quand ils font les mitzvot, ils font les mitzvot, à part le etrog. En général, les gens, tout le monde ne cherche pas obligatoirement à embellir les mitzvot. La mitzvah de Hanouka, elle est, comme je vous ai dit, une lumière par maison et par soir, et chaque soir, une seule lumière. Dans la Gemara, on a envisagé un hidour. Et on nous a dit quel genre de hidour on pouvait envisager. Et du coup, on a envisagé deux sortes de hidourim différents. Un premier hidour qui est d'allumer un nombre de bougies qui nous indique quel jour on est dans les jours de Hanouka. Donc nous, on allume 1, 2, 3, 8. Le Beit Shammai, ils allumaient 8, 7, 6, 5. Parce qu'on peut se repérer en disant les jours à venir ou les jours déjà passés. C'est une façon de savoir où on est dans les jours de Hanouka. Nous, Beit Hillel, ils disent 1, 2, 3, alors nous, on fait 1, 2, 3. Ça, c'est un premier hidour. Il y a un deuxième hidour qui est, comme on a vu, on doit allumer une lumière par maison. Le deuxième hidour, c'est d'allumer un nombre de lumières qui indique le nombre de personnes qu'il y a dans la maison. Sauf que un couple parental, ça compte pour un, mais une famille avec trois enfants, ils vont allumer quatre lumières. Quatre lumières le premier soir, quatre lumières. S'ils décident de faire le deuxième, que j'ai cité en deuxième hidour, ils vont allumer quatre le premier soir, quatre le deuxième soir, quatre le huitième soir. Et puis il y a des gens qui panachent. C'est-à-dire, ils vont faire à la fois le premier et le deuxième hidour. Alors comment on fait? Alors, on peut imaginer que les gens, ils vont s'acheter un candélabre à huit branches. Et puis, ces gens-là, cette famille-là, ils vont acheter quatre candélabres. D'accord? Et donc, ils vont en allumer quatre. Et dans chacun d'entre eux, ils vont allumer le premier jour une lumière, dans le deuxième jour une deuxième lumière, etc. Et nous, par exemple, chez nous, les enfants, ils allument. Et donc, les enfants, ils allumaient à l'entrée de leur chambre, en fait. Chacun allumait sa enfin, son chacun avait fabriqué ou on avait acheté une chandelier à huit branches et il allumait. Et ils allumaient un, deux, trois, quatre. Alors il y a toutes sortes de minagim, quoi. Par exemple, la plupart des gens, ils ne laissent pas allumer, les filles n'allument pas, les jeunes filles n'allument pas. Chez nous, on allume. Je ne suis allé. Mais chez nous, ça veut dire. Personne dans notre famille, quoi. Ça brise qu'on allume. Mais Une de mes enfants, mes filles, quand elles étaient à Gateshead, étaient souvent une ou deux avec une copine métier comme ça qui allumait aussi. C'était deux sur 450 à allumer le numéro de Hanouka. Alors, normalement, la vérité, c'est que quand on dit qu'on va, quand je disais on va allumer quatre chandeliers, c'est a priori c'est le maître de la maison qui allume quatre chandeliers. C'est pas obligatoirement les gens eux-mêmes qui doivent l'allumer. On a pris l'habitude de laisser allumer les enfants, etc. Les gens laissent allumer les enfants la bougie, pas la bougie essentielle, mais celle qu'on ajoute autour du hidour. Alors, il y a des gens qui laissent allumer leurs enfants. Pas comme on veut. Donc, le paradoxe, si vous voulez, c'est que personne dans le clan d'Israël, vraiment personne, ne vit la mitzvah de Hanouka avec une bougie. Personne ne fait ça. Ou les gens, ils n'allument pas, mais s'ils allument, ils allument. Il n'y a pas les moins religieux, ils allument, et puis les plus religieux, ils allument avec plus de lumière, pas du tout. Tout le monde allume, un, deux, trois. Il y a peu de gens qui allument. Il y a moins de gens, en tout cas. Je crois que les Sfaradim, on allume pas, ils n'allument pas en fonction du nombre de personnes. Alors, le paradoxe, c'est que dans les Hidourim, un des Hidourim est mis en avant par Tosfot et l'autre est mis en avant par le Rambam. Alors, les Sfaradim, ils font Tosfot et les Ashkenazim, ils font le Rambam. C'est-à-dire, exactement le contraire, quoi. Les Ashkenazim vont faire le Rambam, c'est les Sfarad, et les Sfaradim, ils vont allumer le Tosfot, qui est l'Ashkenazim. C'est comme ça. Alors, on voit tout à fait, cette mitzvah, elle est complètement différente. Elle est d'abord très populaire, et puis elle est complètement différente parce que tout le monde fait un hidour. Cette mitzvah-là, elle n'existe pas pratiquement à l'état mitzvah. Je veux dire que mais c'est très important de le savoir. Si vous êtes dans un hôtel ou je ne sais pas quoi, et vous n'avez pas le droit d'allumer 8 bougies le 8e soir, ne dites pas je ne peux rien faire parce que. Non, si vous allumez une bougie, ça suffit. Vous êtes yotzé, on a fait la mitzvah. Vous n'avez pas fait le hidour mitzvah, mais la mitzvah, elle est faite. Donc c'est important de le savoir. On s'acquitte de la mitzvah avec une seule lumière. Bien, alors on va revenir sur cette histoire du Bayit Sheni.
Une question par rapport au Bayit Sheni, quand on a fait le problème de pureté pour faire l'huile. Mais si on a des problèmes de pureté pour faire l'huile, est-ce qu'on a aussi des problèmes de pureté pour allumer les.
Oui, mais les gens se sont purifiés. Ah.
On a dit qu'il fallait un certain temps pour se purifier. C'était ça, en fait,
Oui.
Donc, le premier jour, on ne pouvait pas être purifié pour allumer.
Alors ça, c'est déjà un problème, avec normalement, mais on peut se débrouiller pour ne pas rendre l'huile impure avec du bois, etc. Alors, il faut savoir que le fait que ce soit déroulé au temps du deuxième Beth Amikdash, ça veut dire que ça a à voir avec la Kdusha du deuxième Beth Amikdash. Qu'est-ce qui a à voir avec la Kdusha? C'est que les Chachamim, ils ont enseigné que il y a une correspondance entre la Kdusha du Beth Amikdash et la transmission de la Torah. Alors, je m'explique. Quand vous prenez Pirkei Avot, vous avez au début de Pirkei Avot la chaîne de transmission de la Torah. Moshe qui va être au Sinaï, on sera allé au choix, etc. On voit que la Torah, elle s'est transmise d'un groupe à l'autre, les Skenim, Onéviim, etc. Et d'un groupe à l'autre, la Torah a été transmise jusqu'à Anshe Knesset HaGdola, jusqu'aux gens qui forment ce qu'on appelle la Grande Assemblée, Anshe Knesset HaGdola, les gens de la Grande Assemblée. Cette Grande Assemblée, c'était une assemblée de Talmidei Chachamim, assemblée dans laquelle il y avait aussi les prophètes, les derniers prophètes. Et vous connaissez un des membres de cette Grande Assemblée, c'est Mordechai, le Mordechai d'Esther. Il était un des membres de la Knesset HaGdola. Ces gens-là, c'était une assemblée de 120 personnes. Et ce sont eux qui ont fixé la formule de la tfila que nous utilisons. La Amida, la tfila qu'on utilise, les 18, puis ensuite 19 bénédictions qu'on utilise, ça date de. Enfin, eux, ils ont fait 18, après on a ajouté une 19e, mais. Les 18 bénédictions, les Shemoneh Esrei, donc, ça a été composé par eux. Entre autres. Donc, ils sont le dernier groupe. Après eux, quand vous regardez dans Pirkei Avot, vous avez Antignos et tout seul. Et puis ensuite, c'est ce qu'on appelle les Zougot. Ensuite, c'est les pères. Toujours les pères de Hillel, Shammai, toujours deux par deux, parfois. Yossi Ben Yosser, et deux Yossi, etc. Ça veut dire qu'on a passé d'une transmission de groupe à groupe à une transmission à un niveau plus individuel. Même si c'est une paire, c'est deux individus. Bon. Donc ça a complètement changé. La Torah, elle se transmet à travers des individus et pas à travers une collectivité. Les premières Zougot, le premier père, là, ils ont vécu au moment de la guerre contre les Grecs, au moment où les Hashmonaïm ont fait la guerre contre les Grecs. Et donc il y a un parallèle entre cette façon de transmettre la Torah avec c'est aussi par exemple dans cette transmission-là, à ce moment-là, qu'a lieu la première Marloket. Première marloquette qu'il y a dans le peuple d'Israël, elle a lieu à ce moment-là. De la même manière, de façon enfin, analogue, dans le Beth Amikdash, il y a le fameux miracle de Hanouka et la Takana. Et la Takana de 8 jours, et qu'on va allumer, les gens vont allumer dans leur maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'allumage de la menorah, c'était fait par le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il représente le clan d'Israël. Bon, par exemple, à Kippour, c'était tout le Kohen Gadol qui faisait. Nous, on faisait rien. Le peuple ne faisait rien. Peut-être, c'est pas sûr, mais c'est possible à un moment ou à un autre, on priait, on faisait peut-être les trois tefillot quotidiennes, j'en sais rien, et on jeûnait. Mais toute la avoda propre, c'est le Cohen qui la faisait, et il passait son temps à courir. Il courait toute la journée. C'était assez fatigant. Il n'arrêtait pas de se laver les pieds, les mains, etc. Chaque fois qu'il changeait de vêtements, il fallait se purifier, etc. Ça veut dire que cet allumage-là, un allumage collectivité à Menorah. Et le grand changement qu'il y a dans la Takana, c'est qu'au lieu que ça soit une collectivité, ça descend au niveau de chaque maison. C'est presque au niveau de chaque individu. Et donc, c'est monsieur tout le monde qui allume. C'est pas un, on allume à un endroit pour tout le clan Israël. Chacun peut allumer chez soi. Et ce changement-là, bon, il existe dans tout le, par exemple, Yom Kippour, notre Yom Kippour et le Yom Kippour du temps du Bétamigdash, ça ne ressemble à rien. Du temps du Bétamigdash, comme on l'a dit, c'était le Kohen Gadol qui faisait tout le job. Mais aujourd'hui, ben, on est obligé de le faire. Chacun est obligé de le faire. Le Shliar Tzibour, le Chazan, le Shliar Tzibour, il me dispense de rien du tout. Mon Kippour, je vais pas. D'accord, ça nous aide en prier en même temps, quoi, mais il dispense personne. Il représente personne. C'est le chef d'orchestre, quoi, mais c'est tout. Chacun doit faire son travail de Kippour. Et tout est à l'avance. Ça veut dire que tout ce qui se faisait de façon collective, ça passait au niveau des individus. Alors, on peut se regretter de ne plus avoir le Betamikdash, et d'un autre côté, c'est sûr qu'à partir du moment où ça descend au niveau des individus, ben c'est comme si on était passé d'un stade d'enfance à un stade d'adulte. Les enfants, ils ont besoin que quelqu'un fasse les choses pour eux, et les adultes sont censés les faire eux-mêmes. D'une certaine manière, suite à la destruction du Beth Amikdash, ça avait déjà commencé un peu avant, puisque ça commence au milieu du, comme je vous ai dit, c'est au milieu du deuxième Beth Amikdash, on a fait cette takana. Takana des gens auto-adorent. Ça veut dire, c'est pas que. Comment est-ce qu'on faisait? Est-ce que dans la deuxième partie de la vie du Beth Amikdash, où on a recommencé à faire des korbanot, où il y avait un Kohen Gadol qui allumait la menorah, etc. Mais on est après la Takana. Hein. La Takana, c'est, comme on a dit, c'est les Chachamim de Oto Hador. Les Chachamim de cette génération-là ont décidé. Donc les gens, chez eux, ils devaient allumer. Alors quoi, il y avait les deux choses. En même temps, il y avait l'allumage de la menorah au Beth Amikdash, et les gens, ils allumaient chez eux. Et après, qu'il n'y avait plus de Betamigdash, mais il n'y avait que les gens qui allumaient. Je ne sais pas exactement si les gens, ils allumaient vraiment quand il y avait Betamigdash encore. Ouais, la Takana était prise, mais est-ce qu'on la mettait en œuvre? Je ne sais pas. Je ne connais pas il doit sûrement y avoir un texte qui doit le dire, mais j'en sais rien. Mais pour moi, a priori, tel que c'est écrit comme ça, pour moi, on a continué au Betamikdash puisqu'on pouvait le faire, mais les gens, ils ont allumé chez eux aussi. Alors évidemment, en plus, c'est pas seulement les gens de Yerushalayim qui vont allumer, les gens du monde entier vont allumer. Les gens qui savaient simplement par oui dire, qui n'ont jamais rien vu, que Kohen Gadol, il allumait la menorah au Betamikdash. Alors les gens qui avaient... Ils savaient lire, ils avaient lu dans la Torah que ça se faisait, mais les autres, ils n'en savaient rien, quoi. Ils savaient, on dit, ah, Betamigdash, il passe. Mais à ce moment-là, on a une mitzvah, c'est une mitzvah des Rabbanan, d'allumer, qui est pour chacun, c'est-à-dire on a changé complètement, et donc c'est intéressant, c'est que les deux choses se déroulent de façon parallèle. On a passé dans la transmission de la Torah du collectif à l'individuel, et dans l'allumage de la menorah, on a passé aussi du collectif à l'individuel. Comme c'est ça que Rambam vient dire. Au temps du Bayt Sheni, c'est justement à ce moment-là où on a passé du collectif à l'individuel avec ça, c'est aussi l'époque où dans la transmission de la Torah, on a fait le même chemin, en fait. Le Maharal, il explique la différence qu'il y a entre le niveau de la présence divine dans le premier et la présence divine dans le deuxième Beth Amikdash. Au premier Beth Amikdash, l'Ashrat, Ashrina, elle était complète. Elle était visible, comme je vous ai dit, il y avait tous ces miracles visibles. Donc on voyait la présence d'Hachem, si on peut parler comme ça. Au deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas tout ça. Deuxième Beth Amikdash, il n'y avait même pas l'Aaron HaKodesh, par exemple, il n'était pas là dans le deuxième Beth Amikdash. L'Aaron HaKodesh, il a été nignaz, on l'a enfoui au moment de la destruction du premier Beth Amikdash pour qu'il ne tombe pas aux mains des idolâtres. Bon, ils l'ont enfoui dans la terre, on ne sait pas où il est. Et au deuxième Beth Amikdash, il n'y en avait pas. Il y avait la pierre sur laquelle normalement on aurait dû poser le Aaron, mais c'est tout. Il n'y avait pas tous les Nissim, ça n'avait pas lieu. Les Nissim qu'il y avait dans le premier Beth Amikdash, ils n'avaient pas lieu dans le deuxième.
Et vous connaissez?
Hmm?
Est-ce qu'il y avait quand même un S?
Il y avait, on, il y avait, on sentait la présence d'Hachem, mais il n'y avait pas des Nissim, il n'y avait pas les Nissim du Ner Mahavi, etc. Tout ça, ça se.
Trouver les séraphines, pardon.
Ah, les Krouvim. Ben, s'il n'y avait pas l'Aaron HaKodesh, il n'y avait pas de Krouvim.
Mais Rav.
Oui.
Oui. Mais quelle valeur alors, enfin, comment ça réel, comment ça, par rapport entre le premier et le deuxième, le fait qu'il n'y ait pas de Nissim, ça, sur les gens, ça faisait quoi? Quel est l'enseignement
Il dit que ceux qui avaient connu le premier pleuraient quand ils ont vu le deuxième. Parce que c'était nul par rapport au premier.
Mais alors, quelle valeur ça avait?
Ben, ça a une valeur, le Beth Amikdash. Mais ce n'était pas la même valeur. On avait ce qu'on pouvait avoir. C'était néanmoins Beth Amikdash, peut-être beaucoup plus abstrait, si vous voulez, que le Beth Amikdash dans la première mouture. On peut voir effectivement que c'est appauvri, mais d'un autre côté, quand il n'y a pas de Nissim, c'est presque mieux, non?
Mais peut-être vous l'avez dit, mais pourquoi il n'y a pas eu de Nissim sur le second Beth Amikdash?
Parce qu'on n'était pas à la hauteur. Alors le Maharal, qui justement, c'est ce que j'étais en train d'essayer d'expliquer, le Maharal qui fait la différence entre les choses qui sont très visibles et les choses qui le sont beaucoup moins, choses où il n'y avait pas de guilouille, il n'y a pas de dévoilement de la présence divine dans le premier, dans le deuxième, pardon, comme dans le deuxième. Mais il y avait seulement le sentiment qu'il y avait cette présence divine, quoi. On dit dans les Slichot de avant Shoshana, on dit Aïr HaKodesh Be'Hamechuzot, c'est-à-dire la ville de Jérusalem et les environs, etc. Ve'en lanu shiur grak haTorah hazot. Nous, il nous reste plus que la Torah. C'est tout ce qui nous reste. Tout ça, ça a disparu. Il n'y a plus d'Yerushalayim. Avec la Yerushalayim telle qu'elle était, etc. Tout ça, on l'a plus. Il nous reste la Torah. C'est pas que, au moins, il nous reste ça. Il faut l'entendre plutôt que, oui, donner un exemple. Il disait, dans une situation où la mère n'est plus là, alors le père, il doit jouer le rôle des deux. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah, elle remplace tout. Quand on dit il nous reste la Torah, c'est pas il ne reste que la Torah, et le reste va nous manquer en quelque sorte. Il reste que la Torah doit jouer tous les rôles. Elle doit jouer le rôle du bêta-amygdale qu'on n'a plus. Ça que, comme vous avez dit, on va remplacer les korbanot par l'étude de la Torah. La Torah, mais elle joue tous les rôles, donc ça veut dire. Alors si on demande, mais d'où vient la force, cette force de la Torah de jouer tous les rôles? On voit bien que au départ, elle ne jouait pas tous les rôles, la Torah, puisqu'il y avait un Beth Amikdash. Il y avait, si vous voulez, l'organisation du clan Israël. Quand il y a le Betamigdash ou quand il n'y a pas, c'est deux mondes complètement différents.
Continue de parler que la Torah.
Alors,
C'est
au tout
la.
début, mais enfin, très vite, on a eu le Mishkan.
Oui.
Pratiquement, on peut dire que tout de suite après au moment de Matan Torah, on s'est cassé la figure,
Ça, c'est le
et tout de
Mishkan.
suite après, il y avait le Mishkan, donc.
De toute façon, c'est cassé la figure. En fait, il y avait un membre, du coup, non?
Oui, non, on s'est cassé la figure, alors, mais à ce moment-là, Hachem, enfin, c'était pas du tout clair à ce moment-là que Hachem allait nous pardonner. Voilà. Donc, le clan Israël, il était un peu sur, est-ce qu'on va continuer avec le clan Israël ou bien est-ce que Hachem avait dit d'abord à Moshe, laisse-moi, j'arrête, je détruis ce peuple et je commence avec toi.
Voilà. Bon, vous dites que c'est finalement pas si mal parce que ça développe autre chose, le fait qu'il n'y ait pas de bêta.
Je voudrais juste terminer, et puis après vous
Ah,
reposerez
pardon.
la question.
D'accord.
Donc, quand on se demande d'où vient la force de la Torah, qu'est-ce qui lui permet à cette Torah de jouer tous les rôles, en fait? Alors, ça vient de ce que, d'abord, c'est comme ça, c'est ça la Torah, c'est parce que la Torah, elle est la source de vie de tout le reste, en fait. Le Beth Amikdash, il est fait selon les règles de la Torah. Il est seulement une émanation de la Torah. Le Beth Amikdash, il n'est pas indépendant de la Torah. Alors, c'est vrai, on n'a plus les émanations, on n'a pas les membres en quelque sorte, mais on a le corps, on a la source en vérité. La source, c'est en tant que source. C'est-à-dire on s'est ramené à la source. Et pas aux productions. Dans le premier Betamigdash, il y avait ce dévoilement de la présence divine dans tous les domaines. Dans le deuxième, il y a bien la Hashrat Hashkina aussi, mais de telle sorte que il y a là la source de toutes les forces. Donc la Torah, dans sa puissance, dans sa splendeur, elle remplace. Elle a pris, la Torah a pris sa vraie grandeur, si on peut parler comme ça, uniquement à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Bayit Sheni, il y a l'éclosion de la transmission de la Torah qui prend une dimension complètement différente. C'était important, ils ont fait des choses fondamentales, comme on voit, mais c'est comme si la Torah n'était pas tellement publique, je veux dire, elle n'était pas tellement répandue, quoi. Il y avait des Nevi'im, il y avait des prophètes, il y avait des Talmid de Chachamim, mais cette explosion de la Torah, elle a lieu à ce moment-là. Un moment où, dans le Bétamigdash, dans le deuxième Bétamigdash, il n'y a plus toutes ces manifestations. Donc c'est comme si la Torah se révélait en quelque sorte. Par l'absence du Bétamigdash, d'abord l'absence du Bétamigdash dans la version premier Bétamigdash, puis ensuite dans l'absence tout court de Bétamigdash. C'est ce qu'on voit y compris dans la mitzvah de Hanouka, quand c'est voilà, c'est descendu au niveau des maisons. Et après, on voit que c'est au niveau de la maison. Le hidour, c'est descendre jusqu'aux individus de la maison, ou sur les gens qui composent la maison. C'est un hidou. Ce qui est important, c'est au moins que chaque maison, chaque famille, si vous voulez, allume sa, prenne en charge l'allumage de la menorah, en quelque sorte. Le mieux, c'est que ça descende au niveau de chacun. Bon, c'est valoriser quelque chose à l'intérieur de la maison. Pas seulement le nombre de personnes, si on veut. En vérité, on peut aller, c'est un peu plus. Si on fait allumer par chacun, ce qui est pas, ça c'est pas écrit, hein. C'est ce hidour-là, vous voyez, si c'en est un, il n'est pas écrit. Bon, il est, ce qui est présenté, c'est le nombre de personnes. Mais a priori, ça incombait au maître de maison. Celui qui va allumer, il allume quatre chandeliers, comme on a dit, ou cinq chandeliers. Comme... Après, quand vous allez dire que bon, c'est les différentes personnes qui composent la maison qui vont allumer, ça, c'est pas écrit, mais on pourrait comprendre que c'est le point suivant, quoi, quelque part. Il y a une espèce de à la fois, c'est des,
Ruissellement.
C'est vrai, mais ça ruisselle vraiment là, en l'occurrence. Ouais. Oui, Bernard, vous voulez dire quelque chose?
Oui, je me demandais, puisque pourquoi on espère tant du coup la construction d'un troisième Betamikdash, puisque ça a développé. Cette absence a développé beaucoup de Torah. Pourquoi à ce moment-là, il est souhaitable qu'il y en ait un troisième?
Je vais vous répondre, ce qu'on est entre juifs, je vais vous répondre comme de façon juive, c'est-à-dire par une question. Dans les psukim qui disent que faut construire le Mishkan, Hachem a dit, vous allez me construire un Mishkan, vous allez me construire un Mikdash, une résidence sacrée, et je résiderai, normalement on aurait dû dire, je vais résider dans cette résidence que vous m'avez construite. Or, le passage qui dit, vous connaissez, tout le monde connaît la dracha, c'est que, c'est-à-dire, Hachem veut résider dans le cœur de chacun. Donc, si encore beaucoup, veut résider dans le cœur de chacun. Alors, la question qui se pose, mais alors pourquoi il faut en construire un extérieur? Pourquoi il faut construire un tabernacle? Il faut construire un Mishkan? À quoi il sert le Mishkan? Si ce qu'Hachem veut, c'est qu'il soit dans mon cœur. Voilà, c'est ce que je peux vous répondre comme question, à votre question.
J'ai une autre question casse-pied après Bernard.
Allez, Pierre, ça va?
Elle n'était pas casse-pied.
Mais
Du tout.
moi, elle est casse-pied.
Ah
La
bon.
tienne, elle n'est pas casse-pied, c'est bien, elle est
Ouais,
super.
écoutez, vous ferez vos affaires
Ouais,
après, en
ouais,
vous.
ouais, ouais. Oui, alors, si on reprend le propos que vous tenez en indiquant que le Betamigdash, c'est en fait une émanation de la Torah étant la source. Alors, pourquoi une telle présence dans la Torah du fonctionnement des process très détaillés et relativement longs quand même, concernant justement la façon de faire fonctionner ce Beth Amikdash?
Vous avez probablement, c'est pas ma spécialité, mais j'imagine qu'il y a dans le cerveau des indications qui concernent tout le corps. Alors pourquoi ce détail dans les cerveaux alors que Pourquoi est-ce que c'est sûrement archi précis comment ça va se passer dans toutes les parties du corps? Et c'est décidé dans le cerveau. Le cerveau, elle va bien, je sais pas, mais pourquoi c'est comme ça? C'est le propre d'une racine, c'est le propre d'un Shoresh d'être porteur de tout ce qu'il va se développer. Alors, peut-être il y a une épigénèse. Bon, c'est possible. D'accord? Il va y avoir une épigénèse parce que avec tout ce qui est écrit dans la Torah, malgré tout, on a quand même besoin de toutes sortes de drachot pour savoir comment on va procéder dans le Betamikdash. Vous dites, c'est très détaillé. C'est vrai, c'est très détaillé, mais c'est largement pas suffisamment détaillé parce que si vous étudiez Svachim, Menachot, Yuma, vous verrez combien il faut encore en rajouter. C'est nécessaire parce que il faut bien que on trouve dans la source de quoi alimenter en fait la construction de tous les éléments, de toutes les émanations en fait de cette source.
Ok, alors j'ai réagi que pour moi, bien entendu. Ça ne concerne que moi ce que je vais vous dire, mais même si dans ce cas, souvent, nous comprenons rien. Moi, je comprends rien. Hein. Franchement, je vous le dis très honnêtement. Quand je vais lire justement tout ce processus, alors effectivement, ben, peut-être que ça va servir un de ces quatre, mais là, force est de constater que.
Mais ça veut dire que
Pas quoi en faire, quoi, quelque
ça veut
part.
dire que ce qui est écrit là, auquel vous dites que vous ne comprenez rien, vous comprenez peut-être rien parce que vous n'avez pas fait, c'est pas de votre faute, mais on n'a pas fait suffisamment de travail pour décrypter ça de telle sorte que ça nous concerne. Ça nous concerne aujourd'hui. C'est faux de penser qu'il y a dans la Torah des parties qui ne concernent que la construction du Mishkan. Je vous dis tout de suite, le Beth Amikdash, on ne sait pas comment il sera construit, le troisième, mais ni le premier ni le deuxième n'étaient construits sur le mode. Vous parlez du détail. Les détails qui sont écrits, c'est les détails pour la construction du Mishkan. Pas du tout les détails pour la construction du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, ce n'était pas construit exactement de la même manière le Mishkan. Donc, dans la Torah, il y a très peu de choses qui concernent le Beth Amikdash, qui concernent le Mishkan. Et le Mishkan, c'est pas du tout
Je
le
rab,
projet.
je
Pardon?
parlais plus particulièrement des détails sur le fonctionnement du Beth Amikdash, c'est-à-dire
Oui, mais
la
le
partie
fonctionnement du Mishkan, le
Korbanot.
Korban, effectivement, ok, alors vous avez le détail des korbanot. Alors justement, il y a tout un travail, puisqu'on dit que de le lire, c'est équivalent à les approcher. Donc il faut travailler sur ce qu'on lit pour essayer de comprendre en quoi la lecture peut être équivalente, c'est pas de la magie, elle serait équivalente, si vous voulez, au fait de la porter, le korban. Ça veut dire qu'il y a une étude à faire de telle sorte qu'on puisse dégager des principes de vie, des principes de réparation des fautes, etc., à partir du texte. Donc il faut le lire non pas uniquement comme nous décrivant ce qu'on fait avec le sang, ce qu'on fait, les aspersions, etc., dans le fonctionnement du Beth Amikdash, Mishkan, du Beth Amikdash, et de regarder comment est-ce que je pourrais se traduire. Donc ça, c'est les Midrashim, c'est d'autres Sfarim qui vont nous aider. Et le reste, ben, il faut faire le travail tout seul, mais il y a des gens, si vous regardez dans Hirsch ou dans etc., il a fait tout un travail de ce genre-là. Donc, On vous demande pas de savoir. Bon, on verra, je vois que vous n'êtes pas Cohen, donc ni moi non plus. Donc, le fonctionnement lui-même du Beth Amikdash, même si son fonctionnement sera semblable à celui du Mishkan, ça ne nous concerne pas nous directement. Il faut que des gens qui vont être concernés, des Levim, des Kohanim, se mettent au boulot. C'est ce que le Rav Esraim leur a demandé de faire, d'ailleurs. La raison pour laquelle certains se sont spécialisés dans l'étude de Kodashim, parce que on dit, mais qu'est-ce que vous allez faire si demain le Beth Amikdash est construit? Vous ne saurez même pas comment, vous ne saurez rien faire, quoi. Alors peut-être qu'Eliyahu HaNavi nous dira exactement ce qu'il faut faire, on n'en sait rien. Sais pas, peut-être qu'il faut étudier. Moi, j'ai des petits-enfants qui sont Kohanim, donc je devrais peut-être m'en occuper.
Rav, pour compléter ma question, ma première question, est-ce que le troisième Beth Amikdash aura la même fonction que le Mishkan? Parce que le Mishkan, il arrive juste après la faute du veau d'or. Est-ce que le troisième Beth Amikdash, il est à considérer de cette même façon-là, à imaginer, enfin, imaginer, je sais pas quand ce qu'on peut imaginer, mais dans sa fonction peut-être, ou est-ce que c'est tout à fait autre chose?
La réponse, c'est j'en sais rien. Ça, c'est la première réponse. Le Mishkan, vous avez dit très justement, il vient après le veau d'or. Mais pas tellement évident qu'il vienne réparer les fautes.
Je pensais pas à réparer, en
Bon.
fait.
Eh bien, parce que on a fabriqué un nouvel état du monde en faisant le veau d'or. Et dans cet état du monde, on avait besoin de quelque chose dont on. Ah non, ça dépend, parce que il y a une marloquette pour savoir si de toute manière on aurait eu le Mishkan ou si le
Oui.
Mishkan est mieux que parce qu'on a fait la faute. C'est une marloquette entre les Rishonim. Alors, bon, ça dépend comment on lit. Si on lit qu'on n'en aurait pas eu besoin, ça veut dire que le Beth Amikdash, le troisième, a priori, il sera pas fonctionnel, quoi. Il est là pour qu'on voit la présence divine, quoi, d'une certaine manière. Aucune idée de ce qu'on ne sait pas du tout ce que sera. Ce sera. Le Beth Amikdash, c'est pas obligatoirement une maison, etc. Comme ça vient du ciel, on ne sait pas. C'est le ciel qui décidera qu'est-ce que c'est que le troisième Beth Amikdash.
Non, parce que je pensais à ça en fonction de la réponse que vous avez donnée sous la forme de question. Enfin, c'est comme ça que moi j'y pense. Je me suis dit, comme vous avez pris l'analogie du Mishkan,
Oui, mais j'ai
je...
pas dit que le Mishkan, je dis, le Mishkan, il arrive à ce moment-là, et donc certes, donc c'est pour ça, parce qu'il arrive à ce moment-là, alors ça génère l'opinion qui dit, mais il arrive à ce moment-là parce qu'à ce moment-là, on en avait besoin.
Oui.
Mais c'est pas sûr que c'est pour ça. Mais je sais pas si on en avait besoin à cause de la faute ou bien parce que le nouveau monde, si vous voulez, quand on agit dans le monde, on transforme le monde. Aujourd'hui, c'est très facile de comprendre que le monde a changé complètement. Le monde de ma jeunesse, je peux me permettre, il n'a pas grand-chose à voir avec le monde d'aujourd'hui. Donner un petit exemple, dans les jouets d'enfants, dans les Fisher-Price, il y a un téléphone comme on avait les téléphones de mon temps, quoi. Je pense pas qu'aucun d'un petit enfant auquel on offre un tel téléphone aujourd'hui pense que c'est un téléphone. Ça ressemblant pas du, ça, c'est absolument pas ressemblant avec un quelconque téléphone tel qu'il les enfants d'aujourd'hui les perçoivent. Bon, c'est un truc qui fait du bruit, on tourne, ça va. Imaginez tourner un cadran, c'est complètement, ça a rien à voir avec un téléphone. Et tout est à l'avenant, ça ressemble pas du tout. On ne parle pas d'Internet, on ne parle pas de la vision à distance, le Zoom avec lequel on travaille là maintenant. Et je me suis bien adapté, mais bon, en vérité, d'accord, on a vécu avec ça, donc on a grandi, mais ça n'a rien à voir avec le monde dans lequel on vivait auparavant. Encore, je ne suis pas encore assez vieux pour vraiment en parler, mais. Je ne sais pas du tout, on ne peut pas savoir. Ce que je sais, c'est que le monde y change en fonction des actions des hommes. Et ça, on le voit. On le voit physiquement, pratiquement.
Mais j'ai l'impression que ça dépend ce qu'on dit changer, parce que ça, je sais pas si c'est réellement les choses fondamentales qui changent en fait. Ça change, oui, c'est pas les mêmes téléphones, mais c'est de la technique. Enfin bon, pour moi, ça me paraît ça transforme. J'ai pas l'imp... je, enfin, je réfléchis dans ce que vous dites, mais j'ai pas l'impression que le monde change, il bouge techniquement.
Mais vous n'avez pas du tout les mêmes relations avec les gens qui sont pas dans votre voisinage immédiat. Maintenant, vous pouvez parler, on peut parler avec les enfants qui sont à l'autre bout du monde sans aucun problème. Je veux dire, vous pouvez envoyer une lettre, elle mettait je sais pas combien de temps pour arriver.
Oui, mais bon, on peut dire aussi que les guerres elles existent techniquement autrement, l'esclavage est autrement, enfin, les grandes.
Ben justement, donc c'est bien que le monde a vraiment changé, non? Ça s'appelle aussi esclavage, mais c'est pas du tout la même chose. On n'appelle pas esclavage le fait que les gens sont corvéables à merci, c'est-à-dire que les gens, ils sont, par exemple, le fait que la boîte dans laquelle vous travaillez, elle vous donne un téléphone et qu'on peut vous joindre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça, normalement, on devrait appeler ça l'esclavage. Ça fait pas bien, alors on dit pas c'est l'esclavage. On trouve des mots plus jolis. Mais c'est bien l'esclavage, non? Vous n'êtes pas libre de, vous pouvez, dans l'ancien temps, vous partiez en week-end, ben, je suis pas atteignable, point barre. Aujourd'hui, où que vous soyez, on peut toujours vous dire, écoutez, on a besoin de vous, immédiatement, mais avant, vous pouviez dire.
C'est pas que ça, on a inversé les codes. Aujourd'hui, on parle de la déconnexion.
Oui, c'est ça. Ça. Voilà. Est-ce qu'on a le droit de se déconnecter?
Est-ce que la question de, je sais pas, tu peux me répondre directement, Bernard, mais toi, tu ne ressens pas ce changement. Moi, je me pose actuellement des questions. Est-ce que, en fait, est-ce que le vrai changement, ça ne serait pas que le monde prenne conscience qu'il y a HM? Voilà un grand changement. Ou est-ce que justement, peut-être avec la particularité de cette différence incroyable d'accélération de la technique, mais il ne rejoue pas toujours le même scénario. Avec ses portables, avec ses téléphones qui n'ont pas du tout la tronche de téléphone, avec Internet, avec voilà, ce dont on a parlé. Par contre, ça ne bouge pas pour la question que je viens de poser. Je n'ai pas l'impression que malgré tous ces bouleversements et cette accélération, j'entende qu'il y ait un changement de paradigme là-dessus, sur la présence, sur le fait que HM conduit le monde. Pourquoi ça ne marche pas? C'est intéressant comme pourtant. J'ai pas l'impression, ça n'intéresse personne, on dirait. Moi, j'écoute la radio, des gens bon, qui ne sont pas complètement stupides, des commentateurs, des intellectuels. Là, en France, hein, je parle dans le monde goy, hein, pas l'impression que c'est un sujet, ça. Hein.
Question est à Bernard. Hein.
Quoi?
Voilà.
Oui, pardon, j'ai pas entendu.
C'est une question
Il s'explique. Hein.
que le RAF te remet dans les pattes.
Pas du tout.
Non, non, c'est ma
Je
question.
ne fais que prolonger ce que vous aviez dit. Comme j'ai peut-être un micro plus puissant, donc. Oui, mais c'est tout. Ok, je crois qu'on va
Ne
s'arrêter.
demande
Au
pas
revoir.
de réponse particulière. OK,
Merci,
merci à vous. Bonne soirée.
merci,
Merci,
Rav.
Rav.